Mais ce contrat, il est dans Matthieu 10. Le contrat que Jésus a donné, il a rassemblé tous ses disciples, et puis il a dit, voilà, on va lire ensemble un contrat. Je vais vous donner un contrat. Alors, c'est un contrat qui n'est pas écrit, qui est un contrat moral, mais voilà, le contrat, il est là. Et ce qui m'a vraiment touché, vas-y, Cassandre, à la limite, je vais te demander de le faire, comme ça, ça va. Matthieu 10, ce qui m'a choqué dans ce... Pas choqué, mais ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que dès le départ, au verset 1, on voit « puis ». Et je me suis dit, ça veut dire quoi, « puis » ? Pourquoi est-ce qu'on a « puis » en premier mot d'un chapitre ? Alors effectivement, quand la Bible a été rédigée ou écrite, il n'y avait pas les chapitres, hein. Les chapitres et les versets ont été mis bien après. Donc, ma curiosité, ça a été de dire, bah, je vais aller voir le chapitre 9. D'accord ? Donc là, j'ai affiché que le chapitre 10, parce que déjà, on va lire le chapitre 10 ensemble, parce que c'est un contrat, ça va être assez long. D'accord, il y a 40 versets. Et le chapitre 9, lui, en a 38. Et donc, j'ai fait une petite synthèse de ce qu'est le chapitre 9. Et dans le chapitre 9, on voit Jésus qui est en pleine action. Il a un engagement qui est total dans son ministère. Il a un engagement qui est total. Et donc, ce que j'ai pu séquencer, c'est que 2-3 versets à chaque fois. Premièrement, il y a la guérison d'un paralytique. Donc Jésus, il est là, il est à fond. Clairement, dans le chapitre 9, moi, je suis essoufflé pour lui parce qu'il n'arrête pas. Relisez-le chez vous, vous allez voir qu'il est à donf, comme disent les jeunes. Il est vraiment à fond. Donc, il commence par guérir un paralytique. Ensuite, il y a les scribes qui viennent le chatouiller un petit peu. Et donc, il se défend parce que le paralytique, avant de le guérir, il lui a dit, voilà, tes péchés te sont pardonnés. Et donc, les scribes, ils disent, attends, t'es qui, toi ? Bon. Donc, il a une discussion avec les scribes. Ensuite, il rencontre Matthieu qui voit, il est assis, voilà, il est là, et il dit, Matthieu, vas-y, lève-toi, suis-moi. D'accord ? Donc il appelle quelqu'un. Donc déjà, rien que dans ces trois actions-là, il y a un engagement qui est intéressant dans pas mal de domaines spirituels. D'accord ? Là, clairement, Jésus fait de l'apostolat. Hein. Il fait de l'apostolat. Il établit des choses pour que la suite puisse arriver au puits. Je continue. Ensuite, donc, il appelle Matthieu. Matthieu, il ne cherche pas, hein. Il ne calcule même pas. Il se lève, il suit Jésus. Si moi, demain, je vais voir quelqu'un dans la rue, je lui dis, tiens, toi, lève-toi, viens avec moi. Le mec, il va se dire, mais on va où ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Etc. Là, Matthieu ne se pose pas de questions. Enfin, la Bible ne nous dit pas qu'il s'est posé des questions ou qu'il a discuté. On ne nous dit pas combien de temps ça a duré. Matthieu, il se lève et il suit Jésus. Ensuite, il y a la discussion avec les pharisiens. Donc il a un petit peu avant discuté avec les scribes. Maintenant, ce sont les pharisiens qui viennent chatouiller Jésus. Parce que Jésus mange avec les publicains et des gens de mauvaise vie. Pourquoi ? Parce que Jésus continue à évangéliser. D'accord ? Il est vraiment dans tous les domaines spirituels qui font qu'il est en train d'établir quelque chose. Il a un engagement qui est là. Il a signé un contrat moral avec le Père pour pouvoir aller et puis mettre des choses en place. Je suis toujours dans le chapitre 9, hein, et j'en suis même pas à la moitié du chapitre 9. Ensuite, il a une discussion sur les disciples de Jean. D'accord ? Là, ce n'est pas ses disciples, c'est une autre équipe. C'est-à-dire qu'il continue dans l'apostolat où les disciples de Jean viennent le voir et lui parlent du jeûne parce que Jésus vient de manger aussi avec des gens de mauvaise vie, etc. Et donc là, les disciples de Jean viennent poser des questions à Jésus. Il continue de l'apostolat, dans l'apostolat. Exactement comme fait aujourd'hui Antoine ou font Antoine et Christiane quand ils partent par exemple à Kinshasa pour établir Emma. C'est-à-dire qu'ils sont allés là-bas avec une vision et la vision, ils l'ont établie à Kinshasa pour que l'on puisse travailler ensemble. Et aujourd'hui, il y a une union qui est là et il y a une union qui se fait avec l'Afrique, Kinshasa et puis ici la France. Et là, Jésus fait la même chose, il fait de l'apostolat. Ensuite, il y a la guérison de la femme avec la perte de sang. Il continue, hein, vous voyez, il est vraiment à fond, hein, Jésus. Et là, c'est même pas lui qui le souhaite, c'est la femme qui vient, vous connaissez l'histoire, qui vient vers Jésus et qui se dit, lui, le gars, là, je le connais parce que j'ai entendu parler de lui. Il a un impact qui est important. Je sais que si je vais le toucher, je vais avoir la guérison. Et donc, par la foi, elle ne connaît même pas, je pense que cette femme-là ne savait même pas ce que c'était que la foi, mais elle a un pas de foi qui est gigantesque, qui est énorme, ce pas de foi. Elle va et elle va toucher le bord de la robe de Jésus et Jésus ressent la puissance qui sort de lui. Jésus, il est tellement engagé, il a tellement ce contrat en lui qui lui donne un pouvoir qui est tellement important qu'il ressent cette puissance qui sort et la femme est guérie instantanément. Et donc, il discute avec elle. Il se retourne, etc. Et il discute avec elle. Et après, il lui dit, vas-y, ma fille, va, ta foi t'a sauvée. On continue, c'est pas fini. Juste avant que la femme avec la perte de sang soit guérie, il y a le chef, on ne sait pas le chef de qui ou de quoi, qui vient le voir, qui dit « Ma fille vient de mourir. S'il te plaît, viens chez moi, viens ressusciter ma fille. » Et donc, il commence à prendre la route. La femme avec la perte de sang vient, touche, tac, tac. Et une fois qu'il a guéri, qu'il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée », il part, il va chez le chef. Où là, il y a les joueurs de flûte qui sont là, etc., etc. Et il ressuscite la fille du chef. Et des journées comme ça, j'aimerais bien en avoir, moi. Non ? J'aimerais bien en avoir des journées comme ça. Hein. Et on va en avoir. Hein ? D'accord ? Alors, moi déjà, rien que le fait d'avoir une résurrection d'une petite fille, alors je serais comblé, hein. Dans ma journée j'ai ça, un comme ça, ça me va. Ma journée elle est faite. Hein. Mais là, Jésus il n'a même pas fini. Il sort de là, il vient de ressusciter une petite fille, il part. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux aveugles qui l'appellent. « Eh oh, toi, fils, vas-y, guéris-nous. » Et Jésus leur dit « Mais vous pensez que je suis capable de faire ça pour vous ?» Ils disent « Bah oui, bah, allez-y, que vos yeux soient ouverts. » Et bah, les deux aveugles, ils retrouvent la vue. Non, c'est pas grave. On pourrait se dire « La journée, elle est bien chargée. Hein. » Hein, c'est pas fini. C'est pas fini parce que là, il y a carrément un démoniaque muet qui vient le voir. Donc, il vient de guérir deux aveugles. Et il y a dans la Bible, ils disent un démoniaque muet. D'accord ? Alors, est-ce que le fait d'être muet, c'est un démon ? Bon, peut-être. Il peut y en avoir, je pense. Peut-être pas tout le monde, d'accord ? Mais effectivement, ça peut en être un. Et donc là, Jésus, ni une ni deux, il n'a pas dit au démoniaque, il dit, bon, écoute, là, il est tard. Il est 19h, là. J'ai ma montre, j'ai mon iWatch qui me dit que c'est... D'accord ? Il est 19h, je vais m'arrêter. Reviens demain. Non, non. Il guérit le démoniaque. Et le démoniaque retrouve la parole. D'accord ? Ce verset-là, il est quand même balèze. Il est balèze. Avec tout ce résumé-là, je pense qu'il est balèze. Et donc la conclusion, c'est que Jésus regarde ses disciples et leur dit « La moisson est grande. Et il y a peu d'ouvriers. » Et juste après, il est dit même que Jésus continue à faire beaucoup de miracles. Sa journée n'était pas finie, continue encore. On nous relate tout ça, tout ce qu'il a fait là dans la journée. Et là, après, Jésus se retourne et dit, voilà, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et donc là, on passe au chapitre 10. On passe au chapitre 10. Puis. Je ne suis pas là. On passe au chapitre 10. Puis. Et là, je trouve que ce contrat, il est beau. Parce que c'est là où il faut qu'on prenne conscience de l'engagement avec Jésus. Il faut absolument que chacun ici, on puisse prendre conscience qu'on ne vient pas que à l'église. Déjà, on ne vient pas à l'église. On vient dans un bâtiment. On est d'accord ? Mais avec les habitudes ou quoi que ce soit, on a tendance à dire « je vais à l'église ». D'accord ? Et ça, Robert Adix hier nous l'a encore précisé. Effectivement, je le dis souvent, on ne vient pas à l'église. On fait partie de l'église. L'église, c'est moi. C'est vous, c'est nous. Nous sommes l'Église. Et donc là, Jésus rassemble toute son équipe. Et donc, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il va équiper ses 12. Il va les équiper. Parce qu'il vient de voir sa journée. Il vient de la voir, là. Il s'est dit, oh là là, moi j'ai une journée quand même assez balèze. Je ne peux pas tout faire. Et je pense que il peut le faire, d'accord ? Et il n'a même pas besoin, des fois. Il peut le faire à distance, par correspondance. Il peut faire des miracles, il peut faire plein de choses. Mais Jésus a vraiment cette notion d'équipe qui est là. Cette notion de dire, je suis en train d'établir quelque chose avec une église, hein, qu'on va voir après les évangiles, parce que dans les actes, c'est là où les choses vont se mettre en place. Et Jésus, il dit, aujourd'hui, j'ai une équipe, et il vient même de l'étoffer avec Matthieu, qui vient d'appeler, d'accord ? Matthieu qui l'a suivi. Et donc, il les rassemble tous. Et la première chose qu'il fait, c'est, eh bien, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il les équipe. Donc déjà dans le contrat, il y a déjà le salaire qui est là. Enfin, le salaire, d'accord ? Il y a quelque chose qui est là, un pouvoir, une autorité qu'ils ont maintenant sur eux pour pouvoir faire ce que Jésus fait. Je vous rappelle qu'à ce niveau-là, le Saint-Esprit n'est pas sur terre. Parce que Jésus n'est pas encore parti auprès du Père. Ça veut dire que les disciples, en prémisse, avaient déjà cette autorité. Jésus leur a donné cette autorité. Et donc la première des choses, avant de leur dire quoi que ce soit, eh bien, il les équipe. Il leur dit, voilà, vous avez vu tout ce qu'on vient de vivre là dans la journée, eh bien moi je vous donne la même chose. Vous allez pouvoir faire la même chose que ce que je fais aujourd'hui. Et maintenant, eh bien, on va lire le contrat ensemble. Vas-y Cassandre. Alors, si Cassandre est fatiguée, c'est parce qu'elle est rentrée d'Italie hier. D'accord? Et elle a une grosse semaine. J'ai passé le verset, les quelques versets avant. Il y a deux versets où on cite les disciples. Et donc là, on passe directement au verset 5. Donc, tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. Donc ça, c'est le contrat. Contrat. Jésus va leur dire, voilà, si vous voulez rentrer dans quelque chose de glorieux, vous allez signer un contrat moral avec moi. Par contre, je vais vous donner toutes les modalités. Et les modalités, c'est n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Je vous rappelle que entre les Juifs et les Samaritains, il y avait une grosse guerre à l'époque. Donc c'était Jésus les prévient et allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est curieux parce qu'aujourd'hui, on a tendance à parler un petit peu à tout le monde. On apporte la bonne nouvelle à qui veut bien l'entendre, pas que à la maison d'Israël. On ne va pas voir que les Juifs aujourd'hui. Mais voilà. Allez plutôt vers les brebis perdues. Verset 7. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. D'accord? Donc l'équipement, il revient dessus. Il dit, voilà, je vous ai donné l'autorité. Je vous le rappelle, aujourd'hui, vous avez la possibilité, dans votre contrat, je vous donne une voiture de fonction, le téléphone et l'ordinateur. Eh bien, maintenant, vous allez gérer votre clientèle. Et ça, c'est exactement la même chose. Vous avez aujourd'hui des avantages qui sont de prêcher. Vous avez la parole, allez-y. Vous vous connaissez, vous me côtoyez, je vous forme. Vous avez la possibilité aujourd'hui, par rapport à votre enseignement, de donner ça. D'accord? Donc l'engagement, c'est allez et prêchez. Dites qui je suis. Allez parler du Père. Dites aux gens qu'ils ont besoin de revenir. Prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Purifiez. Je le relis parce que je trouve ça vraiment génial. Purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Là, ça veut simplement dire, ne vous souciez pas, Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Allez-y par la foi. Aujourd'hui, vous êtes engagé. Vous êtes engagé. Votre salaire va venir automatiquement. À partir du moment où vous allez avoir cet engagement qui sera bon, dans lequel vous aurez du fruit, votre salaire viendra automatiquement, parce que Dieu va pourvoir. Et que les personnes avec qui vous aurez eu des contacts et avec qui vous aurez fait du bien, automatiquement, vont pas vous récompenser, ce n'est pas le principe de récompense, mais ils vont vouloir vous bénir. Ils vont vouloir vous bénir. Et ça, c'est aujourd'hui un contrat que l'on a ici. C'est-à-dire que cette autorité que Jésus a donnée à tous ses disciples, on l'a aussi aujourd'hui. On l'a. On est équipé de ça. On l'a, on a le même esprit qui était dans Jésus, on l'a. On a signé, si vous avez vraiment ce contrat moral, ce contrat signé avec Dieu en disant, voilà, aujourd'hui ou quand vous avez donné votre vie à Jésus, je te donne ma vie, je veux travailler pour toi, je veux te servir, Seigneur, vous avez signé un contrat. Alors bien évidemment, ça n'a pas été avec une feuille, avec des jolies lettres, etc. et un beau stylo Mont Blanc que vous prenez pour signer, non. Mais le contrat, il est là. Le contrat, il est dans notre cœur, il est dans votre cœur. Et on se doit, chaque matin, de pouvoir se remémorer ce contrat, et de pouvoir se lever le matin pour pouvoir se dire, ok, j'ai un contrat, je dois remplir quelque chose. Essaye de te remémorer la dernière fois où tu as fait un de ces actes. De prêcher, de guérir un malade, de ressusciter un mort. Oh, j'aimerais bien ça, j'ai hâte. Purifier les lépreux, chasser les démons. Alors c'est vrai que les lépreux, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Mais là, on a vraiment l'ensemble de toute la panoplie. Vous savez, les petits... Moi, je me souviens, quand j'étais petit, avant, à Noël, j'avais eu tout un uniforme de policier. Et j'étais content. Et vous m'imaginez tous avec mon uniforme de policier? Je ne fais pas un Chip and Dale, hein? Non, non. Je ne fais pas partie des Village People non plus, hein? Mais j'avais non seulement la panoplie, mais mes parents m'avaient acheté une moto électrique. Eh, je peux vous assurer que dans le lotissement, j'en ai fait tomber plus d'une. Ouais. Chanel, tu sors. Et j'avais mon uniforme et j'étais dans la panoplie, j'étais dedans. J'étais dans le rôle. J'avais quoi? J'avais 5, 6 ans, 7 ans peut-être. J'étais tout petit. Non, c'était pas 18 ans. J'avais pas 18 ans. C'est facile, les motos, je les ai eues après. Je vous montrerai des photos, hein, Pascaline. Mais j'étais vraiment dans le rôle. J'étais flic. J'étais flic. Et j'avais cette panoplie. Pour moi, j'avais l'autorité. J'étais un enfant à qui, comme aujourd'hui, les enfants aiment bien les camions de pompiers. Alors peut-être plus ceux de maintenant, mais auparavant, vous voulez être pompier, etc. Moi, j'étais flic. J'étais policier. Et j'étais content. J'avais cette panoplie. Et aujourd'hui, on a ça. On a la panoplie. Elle est là. Vous l'avez ? Vous l'avez ? J'avais un sifflet. Mes parents, ils avaient les oreilles cassées parce que j'avais le sifflet. J'avais la matraque. C'était génial. J'avais l'insigne du flic, là. J'avais l'insigne. Pardon ? Et les menottes ? Les menottes, j'avais les menottes ? Je ne sais plus si j'avais les menottes. Mais bon, peu importe. Peu importe. J'avais la panoplie. Et j'étais bien, j'étais... Voilà. Et donc là, aujourd'hui, eh bien ça, moi, je dis, je l'ai. Et je veux le proclamer tous les matins, par la foi. J'ai l'autorité, j'ai la panoplie pour pouvoir guérir des malades, pour pouvoir prêcher la bonne parole, pour pouvoir apporter le bonheur à des personnes qui n'ont pas ce bonheur de connaître Jésus. Et qui aujourd'hui ont une vie où ils tournent en rond parce qu'ils savent pas qu'ils peuvent prendre une porte qui est une belle porte parce qu'ils sont comme vous, l'autre jour je vous ai montré ce panneau stop avec toutes les flèches, on pouvait pas tourner dans un sens comme dans l'autre. Et aujourd'hui moi j'ai cette panoplie pour dire écoute, moi j'ai quelque chose à t'apporter, c'est quelque chose de bon. Allez, on continue parce que si j'arrête sur chaque verset on n'est pas arrivé. On était au verset 11. Dans quelques villes ou villages où vous entriez, informez-vous. S'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Vous vous rendez compte ? On est en plus reçus comme VIP. Nous sommes des very important person. Toujours avec mon accent anglais. Very important person. Yeah. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Vous vous rendez compte, on est porteur d'une bénédiction sur nous. On est porteur de cette bénédiction qui permet de pouvoir apporter la paix dans une maison et d'apporter la prospérité dans une maison. On a ça. C'est pas une baguette magique. Hein. On n'a pas une baguette magique. C'est bien au-delà de la baguette magique. C'est au-delà de ça. On a ça naturellement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous faisons partie de l'Église. Et on a signé un contrat dans l'Église. Et pour l'Église. On a signé un contrat et chaque personne, qui que ce soit, qui que vous soyez, eh bien vous avez cette autorité à partir du moment où vous avez dit « Oui, Jésus, oui, oui, je veux. Oui, on y va. » Moi, j'encourage Florent, le baptême, top. Franchement, je t'encourage parce que le baptême, c'est une belle expérience. Si vous saviez des fois comme on a du mal quand on a des personnes qui ont donné leur vie, de leur expliquer qu'ils vont reprendre un baptême. Parce que beaucoup, en France, ont pris un baptême enfant. Et pour beaucoup, eh bien, se disent « Pourquoi je reprendrai un baptême ? J'ai déjà pris le baptême quand j'étais enfant. » Parce que l'engagement, il est difficile. Moi, je me souviens avoir eu une discussion un jour avec quelqu'un comme ça. Et ça a été loin parce qu'il s'est vraiment mis en colère et il m'a foutu dehors de chez lui. Il m'a viré de chez lui. Bon, je ne suis pas sorti. Je lui ai répondu, je lui ai dit, écoute, je ne sortirai pas de ta maison tant que je ne t'aurai pas pris dans mes bras. Et ça s'est calmé comme ça. Il était colère, je peux vous assurer que j'ai vu la furie dans ses yeux. Il était prêt à me frapper. Mais peu importe, j'étais droit dans mes bottes, parce que j'apportais quelque chose de bon. Et aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont engagées dans une église. Et c'est top, c'est vraiment top. Donc le baptême, oui, effectivement, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, j'appelle à candidat. Si vous avez envie, si vous avez dans votre cœur, si vous n'avez pas encore pris le baptême et vous vous posez des questions, venez nous voir, posez-nous les questions. On vous expliquera pourquoi le baptême est là, pourquoi Jésus l'a fait. Et tout simplement parce qu'il a montré la voie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prêche le baptême, qu'on prêche le baptême dans le Saint-Esprit, qu'on prêche, même hier, Robert disait, moi je suis pour la délivrance. Oui, je suis pour la délivrance et Jésus le dit là. Il y a des églises qui disent, mais non, la délivrance, c'est pas de Dieu, attention. Non. Ben si, parce que quand, là dans le verset 9, Jésus a guéri des démoniaques, il a délivré des démoniaques. Donc là, on est porteur de paix. On est porteur d'une, là, pour compléter la panoplie, et on est toujours dans ce contrat. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on ne vous écoutera pas, qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Et je vous dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Vous vous rendez compte de l'autorité qu'on a? Vas-y, Cassandre. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voilà, ça va être votre fonction. Donc, on continue dans les fonctions. C'est, vous savez, quand on fait un profil, quand vous lisez des annonces pour des offres d'emploi, c'est exactement la même chose. Voilà, vous allez prospecter, vous allez faire des choses, et bien là c'est la même chose. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Et bien souvent, on n'est pas simple. Et je pense que la simplicité dans nos milieux, comme on va dire, eh bien, on n'a pas cette simplicité de dire, voilà, moi je t'impose les mains, t'es guéri, point. On n'a pas cette simplicité. On a trop tendance des fois à discuter. Même tout à l'heure, quand on parlait de l'argent. Trop souvent, j'entends des personnes qui me disent, mais moi, je donne pas ma dîme parce que c'est pas biblique. Mais alors, mais même, tu peux pas bénir l'Église. Même si c'était pas biblique, t'as pas envie de bénir l'Église. Passe au-delà. Bénis l'Église, point. Bénis tes frères, bénis tes sœurs. Bénis l'Église, on a des projets, on a besoin. On n'a aucune subvention, quoi que ce soit. Passe au-delà. Même la Bible, si c'est bon, pourquoi est-ce que la Bible dirait ne le fais pas? Le fait de donner sa dîme, c'est bon. Oups. J'ai pas eu beaucoup d'amen, mais bon. Ça va, vous m'aimez toujours? Bon, pour les deux qui m'aimaient déjà. Dont Pascaline. Aïe, aïe, aïe. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Vous voyez, même dans le négatif, parce que ça va être dur. Jésus dit, vous inquiétez pas, ça va être dur. Mais par contre, vous servirez de témoignage aux païens. Et malgré ce que vous allez vivre, ben, mon nom sera propagé. Et les gens sauront que l'autorité que vous avez sur vous existe réellement. Parce que même dans les tribunaux, vous pourrez témoigner de qui je suis. Même devant des païens, même des gens qui vous font du mal, vous témoignerez de mon nom. Et ça fait partie du contrat. Un jour, je l'ai fait. Une fois, j'ai été attaqué en diffamation. Donc, je me suis retrouvé au tribunal et j'ai diffamé personne. J'ai juste dit la vérité. Mais bon, la personne devait se défendre, donc il m'a attaqué en diffamation. Et je me suis retrouvé devant le juge, devant tout plein de monde. Il y avait plein de monde, donc on passait à la queue leu-leu, etc. Et je ne sais plus si j'avais un avocat. Oui, si j'avais un avocat. Ouais. Et mon avocat parle, il plaide, etc. Et puis après, on me demande si je veux prendre la parole. Et je suis arrivé devant le tribunal et j'ai dit, voilà, moi je suis chrétien. J'ai dit, texto, hein. J'ai dit, si vous avez une Bible là, je suis prêt à vous jurer sur la Bible que ce que je dis, c'est la vérité. Et le juge m'a dit, on n'est pas aux États-Unis ici. D'accord. Ça n'empêche que je suis chrétien et j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Et je me suis présenté en personne devant le tribunal en disant je dis la vérité. Et je les ai regardés droit dans les yeux. Et l'autre partie qui m'attaque en diffamation, lui, n'était pas là. J'ai perdu quand même. Pourquoi? Peut-être parce que j'avais dit que j'étais chrétien et que je disais la vérité. Et donc, ma foi, elle reste ferme. Dans les circonstances, même quand les circonstances sont pas bonnes, ne sont pas bonnes pour moi, elles le sont pour Dieu. D'accord? Et Dieu fera en sorte que les tribulations que vous allez vivre, que l'on va vivre, que je vais vivre, eh bien, Dieu fera en sorte que ça puisse se retourner à son profit. Et que des personnes puissent être touchées. Qui sait? Pourquoi? Peut-être que dans ce tribunal où j'étais, j'ai peut-être touché quelqu'un. Peut-être qu'il y a une graine qui a été semée dans le cœur pas de l'avocat, mais du juge, et de mon avocat en l'occurrence, parce que mon avocat, je lui avais témoigné. Mais quand on vous livrera, verset 19, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de celle de ce que vous direz, pardon. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Vous vous rendez compte de ça? Même le Saint-Esprit est là pour vous remplir. Et le contrat, il est de dire, eh bien, ce que vous direz là au moment, c'est même moi qui vais le mettre dans votre bouche. Et vous aurez la possibilité de voir un contrat et de pouvoir faire en sorte que, eh bien, ce que vous allez faire dans votre contrat, quoi que vous fassiez, c'est moi qui vais le faire à votre place. Donc à la limite, on est même, on a juste à ouvrir la bouche. Parce que le contrat prévoit déjà des clauses comme celle-ci. Et des fois, il y a des personnes qui disent « Mais moi, j'ose pas parler parce que je ne sais pas quoi dire. » Ou « Je ne vais pas faire ceci ou cela parce que j'ai trop peur. » Et effectivement, comme tout à l'heure, on disait « Soyez simples comme c'était quoi, des colombes ?»« Simples comme des colombes. » Il faut qu'on soit simple. Je l'ai déjà témoigné ici pendant un prêche. Mais une fois, j'ai encore ce regret dans mon cœur. Et les regrets, ça ne sert à rien. Mais quand j'avais vu cet aveugle chez Auchan, qui était près d'un caddie là et qui attendait, que je ne sais pas, c'était peut-être son père ou sa mère qui remplissait le caddie, puis lui, il suivait juste le caddie, il avait sa main. Et quand j'étais passé à côté de lui, j'avais eu tellement à cœur de prier pour lui, mais je n'ai pas osé. Pourquoi ? Parce que dans ma tête, je me suis peut-être dit, ben oui, mais s'il n'est pas guéri, et alors ? J'aurais dû quand même aller. Si même s'il n'avait pas été guéri, au moins j'aurais peut-être apporté un témoignage, j'aurais montré quelque chose, un intérêt. Et j'aurais peut-être fait quelque chose qui, par la suite, eh bien, il se serait passé quelque chose. Et peut-être que même si aujourd'hui il était peut-être même encore aveugle, il serait peut-être dans l'église, dans celle-ci ou dans une autre. Mais au moins, il se serait passé quelque chose. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas osé ouvrir ma bouche. Et pourtant, dans mon contrat, il est noté que, bah, quoi que vous disiez, ce n'est pas vous qui allez le dire. C'est Dieu qui va remplir votre bouche. Ah là là. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Alors c'est vrai que le contrat, des fois, il est un peu chaud quand même. Ouais, il est. Faut reconnaître, hein, il y a des clauses quand même, c'est pas cool. Non. Le frère livrera son frère à la mort, verset 21, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Donc il faut continuer. La persévérance. Dans votre contrat, il est noté la persévérance. La persévérance. C'est fini les activités où on a une activité en dents de scie, où un coup on va bien et puis un coup on va un peu moins bien. Ça peut arriver. Mais on est une église, on est un corps. Quand tu vas moins bien, appelle un de tes frères ou de tes sœurs, dis voilà, prie pour moi, je ne vais pas bien aujourd'hui. Et puis l'inverse sera vrai aussi le lendemain ou le surlendemain. Ou celui qui n'était pas en forme aura retrouvé la forme et il appellera celui qui était en forme, qui n'est plus en forme. Parce qu'il faut qu'on puisse avoir cette persévérance. Notre contrat nous demande d'être persévérant. L'engagement pour Dieu vous demande d'être persévérant. Et de pouvoir rester constant pour Dieu. Parce qu'il y a trop de gens qui meurent aujourd'hui. Et comme on l'a lu juste avant, il y a peu de moissonneurs ici. Il y a peu de moissonneurs. Et pourtant, la moisson est grande. La moisson est grande. Vas-y, Cassandre, suivante. Allez, j'accélère un petit peu. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son serviteur. Pourquoi ? Parce que vous avez le Saint-Esprit. Et Jésus a bien dit qu'on est capable de faire des miracles bien plus grands que ceux qu'il a fait. Bon, il n'y a pas de grand ou de petit miracle. Mais on est capable de pouvoir aujourd'hui parce qu'on est co-héritier avec Jésus, tout simplement. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? Ne les craignez donc point, car il n'y a point de cachets qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Discernement, on a des dons avec nous. Ce que je vous dis... ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et que ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Je vais accélérer. Je vais passer directement 32 et 33, parce que là, quelque part, la conclusion du contrat est tellement belle. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. À partir du moment où on confesse le nom de Jésus à qui que ce soit, où que ce soit, Jésus l'entend. Et Jésus est avec nous. Jésus entend ton engagement. Jésus voit ton engagement. Jésus connaît ton cœur, bien mieux que ton voisin, bien mieux que ton épouse, ton conjoint. Bien mieux que toi-même. Il connaît les moindres recoins de ton cœur. Il sait là où il doit aller agir pour pouvoir soit libérer, soit briser des liens. Il est capable de faire de toi une perle précieuse. Et tellement précieuse parce que vous êtes des perles précieuses. Votre engagement fait de vous des perles précieuses. Jésus a besoin de vous, chacun ici, pour que l'on puisse travailler, continuer à bosser pour lui et faire des choses qui soient tellement glorieuses pour lui. Mais avant ça, et je vais revenir par rapport aux différents prêches que j'ai faits ces deux derniers dimanches, il faut être connecté. Il faut pouvoir être connecté, avoir cette relation avec lui. On a l'engagement, on a la relation, et à partir de là, boum, on y va, on explose. Vous avez envie de ça? Ouais? Je vais finir juste à 100, s'il te plaît. Je vais pas le détailler, vas-y, encore une. Voilà, j'ai juste trouvé, je vais pas le détailler parce que le temps passe vite. Les 8 règles de l'engagement, j'ai trouvé ça sur Internet et j'ai trouvé ça tellement bien. Si vous avez besoin, je vous l'enverrai. Mais déjà, rien que l'agence qui a créé ça, Useful, j'ai trouvé ça sympa. Utiliser complètement. C'est bon, la traduction peut être bonne. Useful, utile. Useful, c'est utile. Ouais. Bah moi, je voyais l'utiliser à fond, quoi. Voilà. Mais c'est utile aussi. Et là, les 8 règles, c'est la cohérence, l'intelligence sociale. Après, c'est vrai que quand c'est diffusé comme ça. L'innovation, la renommée, la satisfaction, la collaboration, la conscience, la confiance. Les 8 règles, elles sont là. Et je pourrais à la limite refaire un prêche sur ces 8 règles-là, parce qu'elles sont tellement bonnes. Et après, en détail, quand on prend par exemple la conscience, la vision d'entreprise, c'est quoi? C'est l'Église, c'est le fait d'être un corps, la vision d'entreprise. La preuve d'engagement, elle est là, la preuve d'engagement. La responsabilité, on l'a, la responsabilité. Tous ces points qui sont dans le cercle extérieur sont bons. Quand on prend dans la confiance, avoir de la conviction, de la transparence et de l'humilité. C'est tout ce qu'on vient de lire. Avoir de l'humilité, avoir de la transparence, de la conviction, avoir de la conviction, un esprit de conviction. Moi qui suis commercial, je dois avoir un esprit de conviction quand j'ai des clients en face de moi. Il y en a qui se servent du mensonge pour avoir un esprit de conviction. Moi, non. Et je le dis à mes clients. Je dis non, je ne vous mentirai pas parce que c'est comme ça et comme ça. Et à partir du moment où vous avez cet esprit de conviction et que vous ressentez, ou les gens ressentent votre honnêteté, ils le ressentent. Et bien c'est pareil, quand vous parlez de Jésus à quelqu'un, à partir du moment où vous avez connu l'amour de Jésus, que vous ressentez vraiment les bienfaits de vivre avec Jésus, les personnes qui seront en face de vous ressentiront ça. Parce que vous aurez cet esprit de conviction. Et c'est le Saint-Esprit qui vous donnera cet esprit de conviction. Dans la cohérence, la durabilité, la raison d'être et l'exigence. 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 Le fait d'arriver à 10h pour le culte. Oups. L'intelligence sociale, l'empathie, la proximité, l'incarnation. On est l'incarnation de Jésus. On fait partie, on a le Saint-Esprit en nous. On est le temple du Saint-Esprit. On est une incarnation. Et ça en fait partie. Quand on est dans l'innovation, on peut appeler ça l'évangélisation, c'est de la méthode, du leadership, l'ouverture au changement. Enlever toute religiosité, l'ouverture au changement. Tout ça, ça fait partie du contrat. Les 8 règles de l'engagement, elles sont là. La renommée, quel est l'impact que vous avez dans votre quartier, dans votre immeuble, dans votre rue? Quel est l'impact que vous avez dans votre boulot? Moi, ils savent tous que je suis pasteur dans le boulot. Ils le savent. J'ai une petite jeune qui se marie l'année prochaine. Et je lui ai dit, écoute, voilà. Et bon, je parlais pour certaines choses. Et ils le savent. Et ils viennent me titiller maintenant parce qu'ils sont... Voilà, vous imaginez les plaisanteries vers quoi ça tourne. Bon. Donc, ils me titillent un petit peu. Voilà, donc les 8 règles, elles sont là. Et j'ai trouvé vraiment ce graphe qui est vraiment très bon. Qui est vraiment très bon. Parce que, toutes ces règles-là, elles sont pour nous. Je ne suis pas là pour gérer une entreprise. Attention, je n'ai pas dit ça. On n'est pas là pour gérer une entreprise. Mais l'Église, elle se doit d'avoir des règles. Même si les règles, il n'y en a qu'une. C'est vraiment être attentif et vraiment à l'écoute du Saint-Esprit. Pour pouvoir avoir un impact. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est de pouvoir... servir Jésus avec joie. Et je vais finir avec ça, vas-y Cassandre. Le psaume 100. Psaume pour remercier Dieu. Acclame l'Éternel, ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie. Que votre engagement pour l'Éternel soit avec de la joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage, le grand berger. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. De plus en plus, moi, ça fait partie de ma prière. Et je me reprends quand je prie. Parce qu'on a trop tendance des fois à dire, Seigneur, s'il te plaît, fais ça. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi ça. Fais que ceci ou cela. Et il y a des moments où je me dis, mais Seigneur, avant toute chose, je veux te louer pour qui tu es. Et non pas pour ce que tu fais. On est trop dans la récompense, dans nos prières. On est trop dans le pécuniaire. À dire, voilà, Seigneur, ouais, je sais que toi, je peux te demander tout ce que je veux, etc. Non, je veux d'abord te prier pour qui tu es, parce que tu es mon Dieu. Et mon engagement, il n'est pas pour ce que tu fais, il est pour ce que tu es, pour ce que tu es pour ma vie, parce que mon engagement, il est pour toi, point. Point. Après, si j'ai la récompense, oui, parce que c'est écrit dans la Bible, et on l'aura. Mais d'abord, remettons Jésus au centre. Remettons Jésus au centre. Laissons-le à sa place, qu'il trône sur son trône de gloire et qu'on puisse nous incliner devant et pouvoir le servir avec joie. Parce que tout est écrit là. Car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Amen. On va se lever, on va prier. Samedi, si tu peux nous jouer.